les parts actualités. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous en ce 8 juin? Clotilde Seille vous accompagne pour ces parts actualités avec aujourd'hui les titres suivants. Des lacunes importantes dans les services offerts aux personnes handicapées. Semaine québécoise des personnes handicapées 2017, le ministère du Tourisme appuie la déclaration « Un monde pour tous ». Une entrevue avec Marie-Noëlle Goy, directrice générale et artistique du Papillon Blanc. On parlera de danse pour les personnes en perte d'autonomie ou en fin de vie. Toujours au sujet de la semaine québécoise des personnes handicapées, le maire de La Tuque a voulu faire un exemple et s'est promené en chaise roulante au centre-ville. Et puis, course en fauteuil roulant, Lee Leclerc devient le plus rapide du pays. Une autre entrevue avec Catherine Villeneuve, directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille, au sujet des 7e Jeux mondiaux pour personnes de petite taille présentés au mois d'août prochain. À Toronto, deux policiers se moquent d'une femme handicapée. Il y aura un suivi sur cette affaire. Et Handicap International au Mali, Jeff Meir nous présente un témoignage, ma foi, assez bouleversant. Alors, lacune importante dans les services offerts aux personnes handicapées, c'est d'après un texte de Hugo Lavallée sur le site de iciradiocanada.ca. Long délai d'attente, besoins non comblés, disparité dans l'offre de services, un rapport préliminaire produit par l'Office des personnes handicapées et obtenu par Radio-Canada met en exergue les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées. En 2009, Québec adoptait la politique à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité afin de favoriser l'intégration à la société des personnes qui vivent avec un handicap. Dans la version préliminaire d'un rapport portant sur les 5 premières années de mise en œuvre de cette politique, l'Office des personnes handicapées relève toutefois que bien des problèmes persistent. Par exemple, au chapitre du soutien à domicile, le nombre d'heures de service par usager semble demeurer faible, notamment lorsque les services sont offerts par les CSSS, les Centres intégrés de santé et de services sociaux. Des disparités de services demeurent selon la région où habitent les prestataires de soins ou encore selon leur handicap. Le rapport note par exemple que durant la période étudiée de 2009-2010 à 2013-2014, le nombre d'heures de services offertes en soutien, à domicile a surtout augmenté pour les personnes âgées, alors qu'il a diminué pour les gens atteints de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme. Le rapport s'inquiète aussi de l'insuffisance des ressources octroyées aux proches aidants. Le suivi des dépenses de programme du MSSS, le ministère de la Santé et des Services sociaux, a révélé que le financement des services aux proches aidants a très peu augmenté en termes absolus depuis 2009-2010 et que l'augmentation est plus faible que le taux d'inflation, écrit-on. Alors, de nombreuses recommandations sont formulées, dont celle de renforcer les mécanismes de contrôle de la qualité des services offerts. On suggère aussi au ministère de rendre public l'écart entre les besoins et les services rendus en soutien à domicile et de financer ces services jusqu'à concurrence de ce qu'il en coûterait pour héberger une personne présentant un même profil de besoin dans un établissement public. L'Office des personnes handicapées du Québec n'a pas souhaité commenter le contenu de ce document, préférant attendre sa publication en bonne et due forme. Alors, au sujet de la semaine québécoise des personnes handicapées, le ministère du Tourisme appuie la déclaration « Un monde pour tous » et le gouvernement nous le fait savoir aujourd'hui. En cette semaine des personnes handicapées, le ministère du Tourisme confirme son engagement à prendre les dispositions nécessaires pour favoriser un tourisme accessible à tous, en signant la déclaration « Un monde pour tous ». Celle-ci est issue du premier sommet mondial « Destination pour tous » tenu à Montréal en 2014 et organisé par Kéroul. C'est ce qu'a déclaré la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Madame Julie Boulet, qui souligne que depuis plusieurs années déjà, le tourisme accessible est présent dans les réflexions gouvernementales et fait partie intégrante de ces stratégies. Elle rappelle que lors du dernier budget, 5 millions de dollars ont été annoncés pour favoriser l'accès aux sites touristiques aux personnes ayant une incapacité. La déclaration vise à maintenir la concertation pour la mise en œuvre des recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme en faveur d'un tourisme accessible à tous. Elle contient 40 mesures et s'adresse aux opérateurs et aux intermédiaires du tourisme, du voyage et du transport, aux autorités locales et nationales, ainsi qu'aux organisations internationales, afin de soutenir ces recommandations. Je me souviens d'avoir évoqué un article sur ce sujet et de l'avoir, ma foi, trouvé fort intéressant. La danse pratiquée par des gens en perte d'autonomie ou en fin de vie. Et pour nous parler de cela, et plus précisément du papillon blanc, qui est l'organisme qui chapeaute cet exercice-là, eh bien, je vais m'entretenir avec Marie-Noëlle Goy. On prononce bien Goy, madame ?
Non, hélas, on dit Goy.
On dit Goy.
Quand vous avez des rois, bien il y a des Goy.
Ah,
oui.
Ben écoutez, je suis absolument désolée, madame, d'avoir
c'est
déformé.
Pas grave, vous n'êtes pas la première.
Je ne suis pas la première, mais j'espère bien être la dernière pour vous. Alors, madame Goy, vous êtes directrice générale et artistique du Papillon Blanc. Bon, d'abord, dites-nous quelle est la fondation, le fondement, la base de cet organisme, et puis aussi, comment est né ce projet, d'où vous est venue cette inspiration?
Oui, alors en fait, ça fait déjà maintenant 4 ans que le Papillon Blanc Danse existe. Donc c'est un organisme culturel, professionnel, et en fait l'idée est née à partir d'un vidéo finalement que la cofondatrice avec moi, en 2013, on a eu ce visionnement donc d'un chorégraphe français qui s'appelle Sylvain Groux, mmh. et qui était venu au CHUM de Montréal pour faire justement une prestation de danse sans musique, et on avait vu cette vidéo, et c'est ça qui nous a donné comme le goût de se dire mais on pourrait mettre notre art au service de la personne en souffrance ou malade, oui. ou en perte d'autonomie. Donc ça a été le premier mouvement, on s'est regardé et on s'est dit on l'essaie à Québec, et puis ma collègue avait comme une entrée déjà, elle était bénévole dans un CHSLD, mm-hmm. Donc à Québec, au Faubourg, et donc ça a été facile de faire nos expériences, et on a vu très vite, pendant 6 mois finalement, on a fait même pas sinon 3 mois, on a fait vraiment des expériences intensives toutes les semaines, 2 fois par semaine, mm-hmm. de rencontrer les gens par la danse. Puis on a vu tout de suite qu'est-ce que ça donnait finalement.
Au niveau de l'administration de centres de soins de longue durée, on vous a pas regardé en disant non mais elles sont complètement folles, ou ça a été immédiat l'ouverture?
Alors oui, on nous a pris pour des folles. ça dépend où, mais c'est vrai que comme c'est vraiment innovateur, ça n'existe pas. Il y a les clowns thérapeutiques, il y a différentes choses qui se font, les chiens, les animaux,
la zoothérapie, oui.
Mais la danse, puis en fait, nous, on ne vient pas non plus comme des danseurs thérapeutes du tout, donc c'était d'autant plus intriguant et...
Alors ça se passe comment?
Des questions.
Ça se passe comment, Madame Goy?
Alors c'est tout simple en fait. L'idée c'est vraiment d'abord en premier la rencontre avec la personne. Alors puis c'est sûr qu'on a commencé en CHSLD, mais le Papillon Blanc, sa mission n'est pas spécifiquement pour les personnes âgées. C'est vraiment l'idée d'aller à la rencontre de personnes en souffrance ou empêchées par un handicap, okay. ou enfermées dans un système. Donc mais c'est sûr que notre grande porte d'entrée a été les CHSLD, et notamment dans le milieu prothétique, dans les îlots prothétiques. Donc c'est là où se retrouvent finalement les personnes qui ont des troubles cognitifs, la démence, Alzheimer, etc. Donc d'autant où on n'arrive plus à communiquer verbalement avec ces personnes, ou à rentrer, elles sont comme parties dans leur monde. Puis nous, avec la danse, eh bien, on arrive à pouvoir, avec ce langage non-verbal, rentrer finalement dans cette communication, oui. ou d'aller chercher leur expression ou leur beauté finalement, puisque c'est vraiment l'idée du papillon, c'est de révéler la valeur et la beauté des personnes en perte d'autonomie.
Alors, ce ne sont pas des spectacles, hein. Vous allez... Comment ça se passe?
On ne fait pas une prestation, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de costume, il n'y a pas d'accessoires. On va au chevet de la personne, on se rend même, on dit aux gens, souvent des fois ils nous disent, on va les mettre dans le salon et tout ça. Non, parce non, que non. ça perturbe déjà l'expérience en soi. On va vraiment vers eux et on vient comme de l'extérieur. Donc, on est une personne, on n'est pas du tout dans le rapport soignant-soigné. Donc, on est un rapport plus direct avec la personne. On apporte une certaine... On apporte l'extérieur. On est une personne de l'extérieur. On apporte une certaine culture qui n'ont plus...
Oui, je
parle
comprends.
Pas de culture artistique ni
culturelle.
Je parle de le fait d'être à l'hôpital ou d'être en milieu CHSLD, bien on n'est plus chez nous, donc on a une vulnérabilité d'autant plus forte puisqu'on n'a plus nos repères culturels ou repères de maison ou du quotidien.
Oui, c'est clair.
Donc nous, pour répondre à la question comment ça se passe, c'est vraiment l'idée, on arrive, des fois on fait un petit échauffement, mais c'est très rapide, et on rentre dans la chambre, on a un code d'éthique, donc il y a vraiment l'idée, en premier, c'est vraiment le respect, la présence, vraiment, on vient vraiment rentrer en contact avec la personne, mais avec toutes nos antennes sorties, c'est-à-dire on se rend sensible. On est très, sensible.
Mais on parle de danse.
Oui. Alors c'est la danse. C'est le véhicule.
C'est mais c'est danse classique, danse sociale.
Comment?
Je dis danse classique, danse sociale.
Non, danse contemporaine. En fait, on a tous une formation professionnelle en danse contemporaine.
D'accord.
C'est notre véhicule en fait. C'est
D'accord.
sûr que en même temps, à travers, c'est la danse. Puis la danse contemporaine, c'est très libre et très large comme domaine. Ça peut
Mais
être
oui.
dans le jeu, ça peut être un jeu de main, ça peut être quelquefois il y a la parole. Évidemment, il peut y avoir même des sons. L'idée, c'est aussi de pouvoir communiquer. Moi, ce que j'aime, c'est beaucoup aussi faire comme la personne finalement. Sans vouloir faire un miroir, mais pour comprendre la personne ou pour rentrer vraiment dans...
C'est un peu de la PNL, ça.
Bien, oui, peut-être, mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher son état corporel. Hein. On parle d'état d'âme, d'état... mais il y a aussi un état de corps. Et donc, on va aller chercher cet état de corps. Ouais, comment est-ce qu'elle est? Comment son corps? Qu'est-ce que nous dit son corps? Et comment est-ce qu'on peut...
Et comment les gens réagissent-ils, Madame Goua?
Alors, c'est extraordinaire. Hein. C'est très positif tout le temps. Autant je vous parlais des fois du personnel ou de l'administration qui sont un petit peu en recul parce que c'est très innovateur. Autant les personnes et les familles, parce que souvent il y a les familles qui sont là, eh bien c'est très réjouissant et c'est très positif dans le sens où on voit tout de suite qu'on rejoint, parce que nous on rejoint pas la maladie, on rejoint la personne. Donc il y a quelque chose, il y a des mémoires corporelles, il y a des mémoires qui viennent en faire en sorte que la personne tout d'un coup se réveille, s'éveille ou se réjouit. Et puis, de toute façon, on a tous, malades ou pas malades, ce besoin de créer et de s'émerveiller. Donc, moi, je crois beaucoup que la personne a besoin de beauté et est capable, peu importe où elle est rendue, de s'émerveiller.
Absolument.
Voilà,
absolument.
Et c'est ça, en fait.
Alors,
ça
d'où,
c'est en même temps simple.
Alors d'où, Madame Goua, le papillon blanc danse. Je vais être obligée d'arrêter là cette conversation parce que déjà, on a débordé très largement, mais je trouve ça... Non, mais c'est pas grave, Madame Goua, parce que je trouve toujours intéressant de voir remarquer toutes les entrevues le sont, mais aussi quand des gens innovent comme ça pour la beauté de la chose, pour parfois le bien-être et le peu de temps parfois qui nous reste autant que ce soit agréable, quoi.
Oui.
Merci,
alors,
Madame Goua.
Il y a toujours la possibilité, si vous voulez en connaître plus, nous avons un site web.
D'accord.
Donc,
lepapillonblanc.org. Org. Merci beaucoup, Madame Goua. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, un maire a eu une idée. celle pour mieux faire comprendre la réalité que vivent les personnes handicapées qui ont de la difficulté à se déplacer dans les endroits publics, celle donc de lui-même se déplacer dans le centre-ville de la ville dont il est maire, autrement dit La Tuque. D'ailleurs, c'est un article qui nous vient de l'écho-de-la-tuque.com. Cette activité spéciale a eu lieu en marge d'un projet entrepreneurial que deux étudiants ont mis sur pied pour sensibiliser la population. Quand on a la chance de pouvoir marcher, on ne se rend pas compte à quel point les gens qui doivent se déplacer en chaise roulante ont des défis à relever. Même quand on aménage des rampes d'accès pour les handicapés, on ne le fait pas toujours de la bonne façon et ça complique la vie de nos gens en chaise roulante. C'était une expérience très intéressante. Je félicite les deux étudiants pour leur initiative. Ils ont réalisé beaucoup de belles choses avec leur projet et ils peuvent être fiers, souligne M. Baudouin, le maire de La Tuque. Répétons quand même qu'à La Tuque, des espaces pour les fauteuils roulants ont été aménagés au Colisée Denis Morel ainsi qu'au complexe culturel Félix Leclerc. Les trottoirs de bois du centre-ville pour contourner les terrasses, l'aide financière offerte aux boucans de la ressource parents L pour les enfants ayant des besoins particuliers, les brigadiers scolaires, voilà quelques-unes des actions entreprises par le conseil municipal ces dernières années. Et en ce qui concerne les deux étudiants, eh bien finalement, d'abord les cités, Gabriel Charret et Raphaël Péloquin, ils présenteront leur projet dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de la SADC du Haut-Saint-Maurice le 13 juin prochain. L'athlète de Saint-Paul, oui, à Saint-Paul, on a un champion, il s'appelle Lee Leclerc. Il a établi un nouveau record canadien dans la course de 1500 mètres en fauteuil roulant. C'est lors de la deuxième soirée sélecte du club d'athlétisme Saint-Laurent le 27 mai dernier que le Lanaudois a réalisé cet exploit remarquable. Disons que ça se prend bien et que je suis vraiment content à commenter celui-ci quelques jours après avoir battu l'ancien record de 3 minutes 51 secondes 70 dixièmes en réaisant un temps de 3 minutes 48 secondes 61 dixièmes. Lors d'une compétition en Arizona, c'était les 13 et 14 mai dernier, Lee a également battu ses records personnels à la course du 200 mètres et à celle du 800 mètres. Rappelons que Lee Leclerc est né avec une forme de paralysie cérébrale, la diplégie spastique, qui a fait en sorte que les muscles de sa jambe gauche se sont mal développés. Cela ne l'a toutefois jamais empêché d'être un grand sportif et d'avoir une détermination à tout casser. Elle s'appelle Karine Villeneuve, c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir m'entretenir avec elle. Elle est la directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille et nous allons parler des 7e Jeux mondiaux pour les personnes de petite taille. C'est bien ça, Karine?
Oui, bonjour.
Claudine. Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, très bien. Et oui, effectivement, on a décidé de vous parler un peu de la 7e édition des Jeux mondiaux pour les personnes qui ont une forme de nanisme. C'est un peu comme sur le modèle des Jeux olympiques, c'est aux 4 ans, ça existe depuis 1993 et ça, l'événement offre en fait des disciplines sportives autant sur un volet amateur que professionnel.
OK.
Et on attend quand même plus de 400 athlètes de plusieurs pays dans le monde.
Ah là là, 400 athlètes! Et
oui,
ça se passe
même.
Où?
En fait, cette année, c'est à Guelph, en Ontario,
oui.
Chez nous, et ça va se tenir du 4 au 12 août prochain.
D'accord. D'ailleurs, je me disais que comme c'est au mois d'août, on aura même sûrement l'occasion d'en reparler hein, sur l'antenne. On aura l'occasion de vous réaccueillir, évidemment, pour rappeler cela à nos auditeurs. Alors, évidemment, le but de ces jeux-là, c'est d'abord de dire que ce n'est pas parce qu'on vit avec le nanisme qu'on ne bouge pas.
Exactement.
Et puis, c'est bien ça.
Oui,
et puis peut-être temps. Aussi pour faire la promotion du sport pour les personnes de petite taille, c'est bien ça?
Oui, exactement. Parce que pour encourager tant au niveau amateur que professionnel les activités sportives auprès des personnes qui ont le nanisme.
Mm-hmm.
Et aussi, bien sûr, il y a un volet échange international et de sensibilisation toujours. À cette condition.
Oui.
Qu'est-ce qui était intéressant, c'est que c'est de tous les âges et aussi on a la chance de rencontrer aussi des athlètes paralympiques parce que depuis plusieurs années, il y a des personnes de petite taille qui deviennent des athlètes paralympiques.
Oui.
Entre autres, si on pense Ici au Canada, on a Tess Rutliffe, qui a été une championne aux derniers Jeux paralympiques de Rio, qui a gagné une médaille d'argent, je crois, en natation.
Ah,
alors,
oui.
Alors, c'est ça, c'est pour encourager le sport, les activités et vraiment l'échange.
Mais humain aussi, parce que ça doit donner lieu à des rencontres absolument extraordinaires.
Oui, effectivement, de pouvoir rencontrer des gens de partout dans le monde et qui vivent en fait la même condition que nous-mêmes.
Bien sûr, bien
sûr. Pour les jeunes, c'est aussi de pouvoir pratiquer des sports avec des gens du même gabarit, parce que souvent nos jeunes, nos athlètes ici vont souvent concourir dans des activités plus régulières.
Oui.
Alors, de pouvoir le faire avec des gens du même calibre, c'est quand même très intéressant.
Quels sont les sports qui seront représentés majoritairement?
En fait, c'est assez varié. C'est assez varié. Il y en a plusieurs, entre autres le badminton, le basketball, le boccia, la natation, le soccer, tennis de table, athlétisme, volleyball.
Ah, mon Dieu, en effet, oui.
Il y en a plusieurs. Autant des sports d'équipe qu'individuels.
Alors là, prochainement, Karine Villeneuve, il y a une soirée qui est importante hein, pour vous. C'est la soirée du 16 juin.
Oui, en fait, nous organisons un petit 5 à 7, un petit souper festif, on appelle chez nous, le 16 juin prochain au restaurant Casey du marché central à Montréal pour encourager nos athlètes parce qu'on a la chance d'avoir 4 athlètes du Québec cette année. Alors, 2 jeunes filles, Colline Cloëta, 12 ans, et Garance Drolet de Montréal, ainsi que Bruno Labonté et, de Montréal aussi et Cathy Besnard de Valleyfield, qui vont représenter le Québec dans l'équipe canadienne. Alors, pour les supporter, on a décidé de faire un événement un peu où on invitait particulièrement nos membres à venir les encourager.
Ben oui.
Et on invite aussi les gens, tout le monde, la population, si vous voulez faire un don à la QPT en mentionnant « Jeux mondiaux », nous, d'ici le mois d'août, d'ici les Jeux, nous allons remettre les montants amassés que nous allons diviser en 4 pour aider justement nos athlètes à défrayer les coûts de leur participation.
Oui, mais évidemment. Et puis, Karine Villeneuve, je pense que d'ailleurs, vous avez fait parvenir hein, ici à Canalem un petit texte hein, qui se retrouve évidemment sous la rubrique « Nouvelles » de notre site Internet. Et j'imagine qu'on pourra retrouver là façon de faire. Voilà, toutes les infos pour vous envoyer des dons. Et écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. Allez-vous participer à quelque chose, vous, Karine?
Non, malheureusement, mais on va les encourager.
Ben oui. Puis ça prend des gens pour organiser, puis ça prend... Voilà, exactement. Merci beaucoup, Karine Villeneuve, d'avoir répondu à ces questions. Et puis je vais vous donner rendez-vous au mois d'août. On fera une autre entrevue, peut-être avant, peut-être après, pour en reparler. D'accord.
Parfait, merci beaucoup. Au revoir.
Mais je vous en prie, au revoir et bonne journée. À Toronto, une femme souffrant du syndrome de Down, la trisomie 21, et ses proches réclament des excuses publiques à 2 agents de Toronto qui l'ont traité notamment de défigurée. Francie Munoz était à l'arrière de la voiture de sa mère avec sa sœur en décembre dernier lorsque les policiers ont arrêté la conductrice après qu'elle ait grillé un feu rouge. Pamela Munoz a décidé de contester le billet d'infraction en cours, soutenant plutôt que le feu était jaune. Et là, elle a reçu récemment l'enregistrement de la caméra de tableau de bord de l'autopatrouille en prévision de sa comparution plus tard en juin. La mère de famille a été enragée en entendant sur l'enregistrement les propos des 2 policiers au sujet de sa fille. Ils ne respectent pas de toute évidence les personnes qui ont un handicap ou qui sont différentes d'eux. En plus de qualifier sa fille Francie de défigurée et de différente, on peut entendre les agents dire qu'elle est une demi-personne. La jeune femme de 29 ans a été évidemment profondément peinée. « J'ai été dégoûtée », a-t-elle dit, « par ce qu'ils ont dit sur moi ». Le président de l'Association des policiers de Toronto dit qu'il a discuté avec les 2 agents qui assurent que ces commentaires ne reflètent pas leur comportement habituel. Ils admettent que leurs propos étaient complètement inappropriés et feront tout ce qu'ils peuvent, incluant des excuses et une formation, pour rectifier la situation, dit Mike McCormack. Entre-temps, la famille Munoz se dit touchée d'avoir été contactée par le chef de police, Mark Saunders, et par le maire, John Tory. Un témoignage maintenant, celui de Jeff Meir de Handicap International. Nous sommes au Mali. avec Sokoma Kouyaté, le père de 7 enfants, qui est au chômage depuis plus de 6 ans. En avril 2017, M. Mir l'a rencontré à Bamako, au Mali, où il partage avec son épouse, sa belle-mère et ses enfants une unique chambre à coucher. La famille passe ses journées dans une cour adjacente où la température l'après-midi peut atteindre les 40 degrés, avec un taux d'humidité de 90%. Kouyaté reste à la maison avec sa belle-mère pour s'occuper des enfants pendant que son épouse vend des épices au marché local, ce qui ne suffit pas à faire vivre la famille. La cour où la famille fait la cuisine, se lave et passe la journée est jonchée de fauteuils roulants, de béquilles et de toutes sortes d'appareils fonctionnels en très mauvais état, mais utilisés par les 3 enfants de Kouyaté qui ne peuvent pas marcher. Petits, ils ont été touchés par le paludisme, ils n'ont pu être soignés. Leur système nerveux a subi des lésions qui ont paralysé leurs membres inférieurs. L'aîné des enfants de Kouyaté a 22 ans. La plupart du temps, il reste assis dans un fauteuil roulant à l'ombre d'un grand arbre, dans une rue adjacente à la maison. Il n'est jamais allé à l'école et ne sait pas lire, tout comme ses 2 petits frères âgés de 8 et 4 ans, handicapés, eux aussi. L'école la plus proche de Bamako, qui est équipée pour des enfants handicapés, est à environ 8 km du village. Il n'est pas étonnant que les enfants ne soient pas scolarisés vu le mauvais état des routes de Bamako et l'absence de trottoirs et de transports en commun. Aucun des 3 garçons handicapés n'a été soigné par un physiothérapeute. Ils risquent de toujours être autonomes. Parfois, des membres de la famille les amènent au dispensaire local, mais ce n'est qu'en cas de maladie grave. On nous rappelle ici que depuis 1984, Handicap International intervient au Mali pour aider ces familles dans la même situation que les Kouyaté. La présence de Handicap International au Mali est vitale. L'association, entre autres programmes, fournit une aide alimentaire aux familles vulnérables, donne accès à la réadaptation aux personnes ayant un handicap, leur fournit des opportunités intéressantes et des emplois, et elle facilite aussi la scolarisation des enfants handicapés. Altergo profite de la Semaine québécoise des personnes handicapées et de la Semaine de la municipalité pour lancer Ma municipalité accessible, un guide pour une participation citoyenne au plan d'action municipal à l'égard des personnes handicapées. Au Québec, les municipalités de 15 000 habitants et plus sont tenues de produire un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Véritable outil pratico-pratique, ce guide encourage et facilite la participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un tel plan. Aujourd'hui, le 8 juin 2017, à 13h30, donc très prochainement, il y aura une web diffusion. Vous pouvez participer à la web diffusion en direct pour vous présenter le guide, vous outiller à construire des villes plus inclusives et poser vos questions aux intervenants présents provenant de divers milieux. Vous pouvez copier un lien dans votre navigateur le jeudi 8 juin à compter de 13h15. Ce lien, c'est via .svsolution.com/centre-saint-pierre. Sinon, le guide est disponible gratuitement sur le site altergo.ca. C'était Clotilde Seille et les paractualités du jour. Bonne fin de journée, à lundi.